Bonjour Claude Askolovitch.
Bonjour Nicolas.
Vous nous parlez, Claude, du désarroi d'un quartier d'Amiens.
Et pas n'importe quel quartier, Nicolas. Henriville, le bourgeois quartier d'enfance d'Emmanuel Macron qui deviendrait, c'est dans le courrier Picard, un quartier malfamé. Point d'interrogation. Imaginez, Nicolas, ces rues bordées de bâtisses patriciennes de briques rouges qu'arpentait le cœur allant le jeune Emmanuel pour retrouver une professeure de français afin de répéter une pièce de théâtre et bientôt plus puisqu'affinité. Eh bien, ces rues sont désormais la proie des dealers. Je suis parti car j'en avais assez de ces défilés de personnes qui venaient chercher de la drogue. Parole de Madame Aline Faye qui a quitté le quartier. Explication du courrier Picard. Les grandes maisons bourgeoises ne trouvent plus preneurs. Elles sont vendues à des promoteurs qui les divisent en appartements. Parfois des marchands de sommeil s'en mêlent. Et petit à petit, le quartier résidentiel paisible d'Emmanuel Macron découvre l'incivilité. Est-ce vraiment important, cela dit, en regard d'autres humiliations? La une du même courrier Picard s'intitule « La honte ». Et là, il ne s'agit pas de Henriville, mais de la colère des ouvriers de Whirlpool qui ont découvert, par nos enquêtes Paradise Papers, les optimisations fiscales de la multinationale qui les licencie et qui masquait ses profits. Et cette douleur ouvrière est incomparable. Et en même temps, comme disait quelqu'un, la colère de Henriville nous rappelle à quel point l'urbanisme et la ville sont des sujets politiques. La ville dit ce que nous sommes, ce que nous perdons et ce à quoi nous aspirons.
Et on parle beaucoup de cette question de la ville d'ailleurs, Claude, hein, ce matin dans la presse.
Il faut lire singulièrement deux journaux ce matin. D'abord La Provence, qui mène campagne depuis hier contre la saleté à Marseille. Sur le site internet et dans les éditions papier, vous voyez des photos de rues dévastées de déchets. Et on a ce phénomène d'un grand journal qui veut incarner le renouveau d'une cité en besoin de dignité. Hier, La Provence mobilisait les maires d'arrondissement. Aujourd'hui, elle compte l'engagement de deux entrepreneurs qui ont choisi de vivre dans les quartiers Nord et qui veulent sauver une rue devenue dépotoir à pneus. Vous lirez aussi, Nicolas, dans Le Monde diplomatique, une enquête splendide d'intelligence sur la splendide modernité des métropoles. Ça s'appelle « Grande ville et bons sentiments » et cela raconte la compétition des villes créatives pour attirer des classes aisées, modernes, tolérantes, start-upeuses qui ne demandent plus d'industrie, non mais des cafés, des arts, de la musique, des pistes cyclables, une diversité, des soins pour leurs animaux et des potagers sur les toits des immeubles et surtout de l'amour. Ouvrez les guillemets, la haine n'a pas sa place ici, proclame Seattle, incarnation de la ville créative. Hélas, rien n'est parfait et le Diplo raconte aussi comment la splendeur de Seattle a expulsé la classe ouvrière et comment la ville a décidé de taxer les sodas sucrés, boissons prolétaires, mais pas les breuvages de façon café latte, tout aussi calorique, mais je cite, apprécié dans les milieux branchés, les villes ne mentent pas sur ce que nous sommes, c'est dans le monde diplomatique.
Et on parle d'une autre ville, cette fois dans le désert.
À Abu Dhabi, qui fait notamment la une de Libération, où Emmanuel Macron inaugure une déclinaison du Louvre. On va donc voir le joueur de fifre de Manet dans un musée inventé par notre architecte Jean Nouvel. Bien sûr, c'est politique. Un deal en art massif, titre Libération, qui analyse sur 6 pages cet enjeu pour Abu Dhabi, qui s'offre en ville et principauté arabe désirable aux valeurs occidentales, et pour la France qui installe son influence. Libération souligne la chance du président Macron. Il inaugure un projet qui a été lancé sous Chirac et Sarkozy. Un historien britannique compare Macron au Bonaparte de l'expédition d'Égypte, mais un Bonaparte sans la manière forte, sans armée, mais amusé pour s'imposer.
Jean Nouvel sera d'ailleurs avec Augustin Trapenard à 9h10, juste après ce 7-9 pour parler précisément du Louvre d'Abu Dhabi. L'autre président chanceux de nos journaux, Claude, cela semble paradoxal, c'est Donald Trump.
Donald Trump, élu il y a un an, vilipendé à la une de l'Humanité, égratigné en une du Figaro et des Échos, l'anti-Macron paraît-il, et pourtant, oui, chanceux, qui bénéficie de la reprise de l'économie américaine entamée sous Obama, s'est expliqué de manière limpide dans le 1. Wall Street se frotte les mains, raconte le journal. Et il ajoute, le journal, que la base des Républicains n'a pas lâché Trump. Comme d'habitude, le 1, c'est le journal intelligent. Titre de une. Pourquoi Donald nous rend dingo? C'est amusant. Et puis, ça retourne tout. Non, ce n'est pas Donald Trump qui est fou. C'est nous qui sommes fous parce que nous renonçons à le comprendre, ce président, à force de compter ses tweets et comptabiliser ses frasques, alors qu'il change l'Amérique sur le fond. Il plante les graines de la perfidie, s'inquiète des psychologues américains. Il n'est pas un fléau surgi de nulle part, complète, toujours dans le 1, la journaliste Aude Lancelin, et vous lirez pour comprendre dans Libération une interview magistrale du grand linguiste d'extrême-gauche américain Noam Chomsky qui relie Trump à la mort du rêve américain. Je cite, il n'est pas surprenant qu'un milliardaire avec un gros soutien financier et médiatique ait gagné l'élection. Les élections ne mentent pas comme les villes sur ce que nous sommes.
Et une polémique de presse pour finir.
Qui oppose deux journaux qui se situent en dehors de l'ordre établi à propos de Tariq Ramadan, le prêcheur et intellectuel musulman accusé de viol. Il y a d'un côté Charlie Hebdo, qui n'est pas seulement un journal martyr et encore menacé, mais aussi le militant d'une conception stricte de la laïcité. Et en face, Mediapart, qui n'est pas seulement un organe d'investigation, mais aussi un média progressiste dont le fondateur Edoui Plenel défendait la liberté d'expression de Tariq Ramadan et dialoguait avec lui. Plenel, du coup, qui est ciblé par des hommes politiques et par Charlie Hebdo dans une caricature de Une où sa moustache devient le masque des hypocrites. Mediapart déclare affaire Ramadan, on ne savait pas. C'est le titre de Charlie, réponse de Mediapart qui dénonce un procès faux et infamant. Et en même temps encore, les journalistes de Mediapart réaffirment leur soutien sans faille à Charlie Hebdo menacé. Comment peut-on se disputer avec un symbole? Voyez-vous Nicolas, il fut un temps où, à la fin des bouclages de la presse écrite, on chantait un vieil hymne des ouvriers du livre, à la santé du confrère. Et il en faudra bien plus, évidemment, pour réconcilier Mediapart et Charlie, ce qui les oppose n'est pas médiocre. Mais enfin, si d'aventure, j'ai lu ceci dans la Dépêche. Il y a, au cœur de la bonne ville de Toulouse, un bar nommé le numéro 5 One Bar, quel anglicisme, qui a racheté une bouteille de vin de Madère, datant de 1675, conservé par un naufrage au large des côtes de Hollande et repêché depuis. Il en coûte 7000 euros pour en boire un verre d'un breuvage sucré, au goût de caramel et à l'arrière-goût de beurre. Lit-on, 7000 euros, c'est, me semble-t-il, bien plus que le prix du mètre carré à Henriville, quartier d'Emmanuel Macron en décadence, nous dit-on.
Claude Askolovitch, merci pour cette revue de presse.